Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, les Orechem Yuntovim et Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude sur le Ayin Hara en prenant les exemples du Tanakh. Nous avons vu plusieurs exemples dans la Torah. À présent, observons le partage de la terre entre les tribus et la tribu de Yosef. Alors regardez ce qu'il est dit. Il est dit lors du partage. Il est dit dans le verset que la tribu de Yosef, ils étaient très nombreux. Cependant, dans le partage, Yoshua va choisir terres, un territoire réduit et un territoire qui n'est pas de meilleure qualité. Donc c'est là où il y a les déserts et les forêts. Alors à ce moment-là, quand ils ont vu, quand la tribu de Yosef, les enfants de Yosef ont vu que la terre qui leur revient, ils se sont plaints. Ils ont dit, c'est pas possible. Alors il dit, le texte dit, « Madoua natatali nahala goral ehad, vehevalechev ani ambrav. » Et il lui a dit, « Pourquoi tu m'as donné un petit territoire alors que je suis un peuple nombreux ?» Que leur répond Yoshua? Il dit, « Ma'am rav, attends, si tu es un peuple nombreux, allez, lechayahara. » Il dit, « Va dans les forêts. » La Gemara explique, qu'est-ce que ça veut dire ça? Va dans les forêts. Il lui dit, Lecho v'ithabehum atzmichem bayarim, shelot ishlot bachem aynara. Dit la Gemara, il leur a dit, allez vous cacher dans les forêts, si vous considérez que vous êtes un peuple très nombreux, alors allez vous cacher dans les forêts, de sorte que le aynara n'aura pas pris sur vous. Au contraire, j'ai choisi d'Afka de vous donner les forêts comme lieu de résidence parce que là-bas vous pourrez vous cacher. Parce que vous êtes nombreux. Donc vous devez faire, vous préserver du regard des autres. Le chef de la tribu de Yosef, il a répondu. Nous, nous sommes des enfants de Yosef. Je vous t'arnons. Mais puis, c'est qu'il est nous, Yaakov. Je le dis, l'autre, ben, là, non, non, les enfants de Yosef. Quelle est la bracha que Yaakov, il a fait à Yosef? Ben, porat Yosef, ben, porat alayim. Le regard ne peut pas se porter, on ne peut pas causer de dommages. Aucune nuisance ne peut être produite sur nous. Par le regard, par le haïnara. Il y a lieu de comprendre. Quelle était l'intention de Yoshua? Mais là, Yoshua, il ne savait pas que c'est cette réalité, que la bracha de Yosef, c'est qu'il est préservé de Aïnara. Alors on dit, le Hanoun Yaakov, il répond à cette question, il dit, ça va, et Yoshua, il dit, c'est vrai que Yaakov, il a donné une bracha spécifique à Yosef, que le Aïnara, il n'a pas de prise sur lui. Mais malgré tout, il ne faut pas s'attendre au miracle, il ne faut pas s'appuyer sur le miracle. Tant qu'on peut se préserver de manière naturelle, prendre ses gardes, se mettre en retrait, alors il est préférable, même si tu es descendant de Yosef, il faut que tu sois, que tu te préserves. Parce que le miracle, il ne faut pas l'employer, il ne faut pas l'utiliser. Quelque chose qui est en dehors de la réalité, il ne faut pas essayer de s'en préserver. Il est préférable de prendre ses précautions. Donc de là, Yoshua, il a enseigné aux enfants de Yosef que la bracha de Yaakov, ils peuvent se préserver même en dehors de la bracha de Yaakov. Par exemple, ici en l'occurrence, de se cacher dans les forêts, de sorte que personne ne puisse on ne peut pas leur porter un regard nuisible et leur causer du tort. Alors en plus, il y a aussi une autre nekuda très importante qu'on peut en déduire. Il n'y a aucune garantie dans la bracha que Yaakov a octroyée à Yosef, il n'y a aucune garantie, puisqu'il leur a dit, préservez-vous de manière naturelle. Donc ce n'est pas une garantie certaine, c'est une bracha. C'est une bracha qui peut s'appliquer, mais elle peut ne pas s'appliquer, puisque si la bracha, elle est infaillible, si c'est une réalité totale, que le Aïnara, comme Yaakov il a cité, que le Aïnara ne peut pas s'abattre sur Yosef, sur ses descendants. Alors pourquoi il leur dit allez vous cacher de manière naturelle, faites, préservez-vous de manière naturelle. Voilà, mais nous on est en dehors du Aïnara. Et ça veut dire c'est pas une garantie, c'est pas certain, c'est une bracha, ça reste une bracha. Uniquement une bracha, c'est-à-dire c'est une tfila, c'est comme si que Yaakov, il invoque le mérite, un mérite, une prière pour que le Aïnara n'ait pas de prise sur Yosef. Mais on sait en rien, tout dépend du mérite de chacun, etc. Donc c'est pas quelque chose d'absolu. Observons à présent Elimelech, Mahlon et Kilion. Alors on a vu que lors, dans Megillat Ruth, que Elimelech il a quitté Eretz Israël, il a emmené avec lui ses enfants, Mahlon et Kilion. Et là-bas, il a marqué, Vayamot Elimelech ish Naomi, le Elimelech est décédé, le mari de Naomi, et il est resté elle et ses deux garçons. Après, il a marqué qu'eux aussi sont morts. Mahlon et Kilion, Betisha Er, Aisha, Mishni et la Deomi Isha. Donc Naomi elle est restée seule. Elle a perdu son mari et ses deux enfants. Le passage qui dit Vayamutu gam shenem, eux aussi ils sont morts. Alors, on dirait que c'est la même raison. Pourquoi Elimelech est mort et pourquoi les enfants ils sont morts, c'est une continuité, c'est la même cause. Et le Midrash il dit Vayamutu gam shenem, eux aussi ils sont morts. Al Thomas Aïn Tsara Eno Make Ela Beavot. Ne dis pas que le mauvais œil, l'œil réduit, il frappe les pères uniquement. Et là, ici, même cet œil-là, ce Aïn Tsara, il frappe aussi les enfants. Ça veut dire que, pourquoi Elimelech il a quitté? Parce que la Gemara elle dit Elimelech Ashir Gadolaya ou Farnas Ador. Elimelech, il était très puissant, très riche, il était celui qui pouvait nourrir et subvenir aux besoins de toute la génération. Il quitte la terre d'Israël pour aller en dehors d'Israël, mi pene tsarot ha'ayin, parce qu'il avait le regard réduit. Quand on regarde l'autre avec réduction, pas avec largesse. Sha'ita ha'ayinu tsara ba'anim, il voyait que les pauvres, ils tapaient tout le temps à sa porte. Il n'en pouvait plus. Alors il a dit encore un pauvre. Donc il avait un regard rigoureux, restreint sur la nécessité qu'il avait lui-même de subvenir aux besoins des pauvres. Donc ils sont venus et ils l'ont acculé à force de répéter les besoins des pauvres, etc. Donc il est parti, il a quitté. Et c'est pour ça qu'il a été sanctionné. Vayamot Elimelech ish Naomi. Donc Elimelech il est mort à cause de ça. Et non seulement lui aussi, les enfants. De là, j'apprends quoi? Que le Aïn Hara maqué aussi Babani. C'est pas Elimelech uniquement qu'il a été frappé. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu Elimelech partir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils l'ont regardé avec quoi? Avec un regard de rigueur. Ils lui ont fait Aïn Hara. Ils disent, toi, tu gardes la richesse pour toi. Nous, tu nous as laissé mourir de faim. Tu t'occupes pas de nous. Alors toi aussi. Alors donc, le Aïn Hara qu'ils ont porté, les pauvres, sur Elimelech, il s'est porté, donc il est mort. Il s'est porté non seulement sur lui, mais aussi sur ses enfants. C'est très important, donc, on voit que... Mais non, il n'y a pas que ça, c'est pas la seule chose. Mais ça aussi, c'est mentionné dans les textes. Observons à présent Hana, Shmuel, Anavi et Penina, etc. Donc, il y avait... Elkana, il avait deux femmes, Hana et Penina. Donc, Hana n'a pas d'enfant. Donc, elle rentre dans Shiloh, dans le temple, et elle prie. Le pasouk qui dit, « Vehi marat nafesh » Elle avait une amertume dans son cœur. Elle a prié Hachem, « Ubachot ifki » elle pleure, continuellement, elle pleurait. Et elle dit, « Vati don neder » Elle a fait le vœu. « Vaton mer » Hachem tsevaot, Dieu des armées, Seigneur, « Imraot ire be'oni amatecha » Si tu vois, tu observes, la douleur, la souffrance de ta servante, en l'occurrence elle, Ouzkartani, tu te souviens de moi. Velotishkar et Amatecha, tu n'oublies pas ma douleur. Mais la Tatala Amatecha, Zera Anashim, tu me donneras un enfant, Zera, une descendance d'homme. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Benatati, Muntati Vlachem. Et cet enfant-là, je le donnerai à Dieu. Le consacrer. Kolé Mehayab. Au moral, il va aller à l'Rochot. C'est-à-dire qu'il sera un nazir en l'âme. Alors, la raison, elle dit. Que ça veut dire quoi, Zera un Hashim? Une descendance d'homme. Pourquoi elle n'a pas dit Zera? Une descendance. La Gemara, elle dit. Benatata, le Amatecha, Zera un Hashim. C'est quoi, Maï Zera un Hashim? Ça veut dire quoi, Zera un Hashim? Les Rabbanan, ils disent. Zera un Hashim, Zera. Chez Mouvla, Ben Anachim, un homme, une descendance qui est au milieu, absorbée parmi les autres hommes. Lo Aroch, Velo Got, Lo Katan, Velo Ilem, Lo Tcha, Tcha, Velo Gihon. C'est-à-dire, elle m'a dit, elle a demandé un homme comme tout le monde. Ne me fais pas je ne veux pas un enfant. Je veux comme le commun des individus, un enfant qui ressemble à tout le monde. Qui ne soit pas plus haut que les autres, plus petit, plus grand, plus fort, plus intelligent, plus beau, plus riche. Quelqu'un qui est du commun. Pourquoi pas plus intelligent, pas plus bête, comme tout le monde, un moyen. Alors c'est pourquoi elle n'a pas prié d'avoir un chacham. Un enfant beau, exceptionnellement beau. Mais pourquoi elle n'a pas demandé des choses exceptionnelles? Elle lui a dit, Rachid dit, Velo Chacham Yoter Midai, pas plus qu'il ne faut, Chacham, pas plus qu'il ne faut. Et Shelo Yie, Tema Be'en Abriot, Omitor Shinit Barim Bo, Cholet et Bo'enara. Elle a dit, parce que si j'ai un enfant exceptionnel qui a des qualités exceptionnelles, qui est une beauté exceptionnelle plus que le commun, qui est intelligent plus que le commun, etc., les gens, ils vont s'étonner. Et dès qu'on s'étonne de la qualité de la personne, alors on va le regarder et on peut lui mettre un ara. Donc elle a voulu le préserver de un ara, ce que la Gemara, elle dit ici. Donc, a priori, de là, tu vas dire, quand on prie, il ne faut pas demander que l'enfant il soit trop intelligent. Il faut comprendre que la situation de Hana, elle est particulière. C'est une femme qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas, pendant des années, elle n'a pas d'enfant. Donc elle prie sans cesse. Et là, quand elle est il s'agit qu'elle est pendant le pèlerinage, elle prie là et elle utilise cette opportunité qu'elle a d'être au temple pour prier. Mais elle demande, elle sait que l'Hachem va lui accorder. Elle sait prier, Hana. Mais dit, quand tu me donnes, mais tu me donnes un enfant que après, c'est pas après j'ai un enfant et après il meurt, ou après il y aura des problèmes. Je veux un enfant que la reine arrête, elle veut se préserver de manière naturelle. Mais c'est vrai que chacun d'entre nous, il doit prier que Kadosh Baruch Hu lui donne des enfants, Chachamim, Tzadikim, Yesharim, qui ont des qualités humaines. Mais elle est dans une situation. Mais ça n'empêche pas que de rester mouvla ben anashim, comme il dit. C'est très important. Mais elle a dit, Chacham Yoter Mida. Ça veut dire quoi, Rashi dit, Klomar, Kol Techuna Sheina Bamida. C'est-à-dire, c'est plus un génie. C'est pas bon de parce qu'on peut susciter la jalousie, l'envie, etc. Observons à présent Shaoul et David. Dans le Sefer Shmuel, il est dit que Shaoul, quand David se présente à lui pour aller combattre Goliath, donc il lui a mis son armure. Alors, il a marqué Vayal Bech, Shaul et David, Madav. Menatan Kova Nehoshet al Rosho. Donc il lui a mis son armure, il lui a mis son casque. Vayal Bech Oto Shirion, il a mis l'armure. Vayakor David et Habo. David a attaché à ça son épée, au-dessus de ses vêtements. Voyons El Alechel Kilonissa. Voyons Mère David El Shaul, l'eau ou Khal Alechel, Baël et eux disent, j'arrive pas à porter toutes ces armures, je veux pas tout ça, il enlève. Kilonissiti. Voyons Sirem David Mehala. Donc il dit, moi je suis pas un guerrier. Moi j'ai jamais mis des armures, j'ai jamais mis des épées, j'ai pas besoin de ça. Il enlève tout. Toute la tiraille que lui donne Shaul, il enlève. Il dit, pourquoi il a enlevé tout ça? Pourquoi il enlève les habits de Shaul? Les vêtements, c'est les propres. Armure et les armes du roi, il enlève. Rashi, il dit, de Rashi, il sent, il a eu peur de Aïnara, de Shaoul. Il a eu peur, parce que là-bas, il y a marqué que Shaoul était très, très grand, et David était moyen. Alors, il dit, comment l'armure, les vêtements de quelqu'un qui est grand, fort, baraqué, il peut aller sur mesure sur un plus petit. Et c'est pas sa taille. Il dit, quand il lui a mis, il s'est tombé juste sa taille. Alors, il dit, Rashi, et David, madame. Donc, quand il a marqué, Vayalbe, Shaoul, et David, madame. Donc, Shaoul a habillé ses vêtements de guerre à David. Ils ont pris la mesure. Ils sont réduits à la mesure de David. Depuis l'instant où David, il a été loin, donc on parle qu'après que David, il a été loin, alors le fait qu'il ait été loin par Shmuel, il dit, donc c'était les apparats du roi. Donc ils viennent sur mesure sur l'autre rang. Et Shaoul a dit, Gavroa Mikolam. Il était plus haut, il dépassait tout le monde d'une tête. Alors il avait peur de Aïnara, que Shaoul il peut lui mettre. Il dit, Shaoul il va prendre conscience que celui-là, là, l'armure, tout le monde a vu que l'armure de Shaoul, elle va comme un gant sur mesure à David. Alors il a eu peur de ça, il l'a rendu. Et le Midrash dit, et rien à ta motzee, be David ameler, kevan shalach lilachem migoliath. Alors le Midrash ramène cette histoire-là. Miyaz vayalbe Shaoul et David madav. Donc le passage qui l'a habillé, Shaoul l'a habillé de ses armures, de ses vêtements et David. Et de suite il dit que Shaoul il était haut, mishichmo ulmala gavoa mikolam. Il était le plus grand du peuple. Kevan shil bisho begadav ra'a sha'asuyim lo. Dès qu'il l'habillait, il a vu qu'il lui allait sur mesure. Donc il lui était destiné. Miyad, Ichnis, Bo'ainara. Tout de suite, Shaoul, il a eu le Ainara sur David. Chira David, Chil bin pene David, Shaoul. Alors, quand il a vu le visage de Shaoul, David, il a observé que le visage de Shaoul, ça changeait de couleur. Il a vu ce tremblement, ce Ainara qu'il avait, la douleur qu'il avait, Shaoul. Il a vu que celui-là, il allait prendre sa place. Alors il a dit immédiatement, je ne veux pas ces habits-là, je ne sais pas utiliser les armes. Je vais aller avec mon bâton et ma fronde. Donc ça aussi, comment ça s'est... David, il s'en est préservé, il dit qu'il a retiré. Mais malgré tout, Shaoul va poursuivre David toute sa vie. David Améler, bon, observant à présent comment David Améler, il s'est trompé, il a compté les Bnei Israël. Vayomer Améler David Eluav, Sarah Haïl, Asherito. Alors il lui a dit, Shot na bechol shifte Israël. Il dit, va, traverse tout le territoire, toutes les tribus d'Israël, du nord au sud, etc. Peadati et Mispar, comptez, afin que je sache le nombre. Alors il est parti, il a compté, il lui a apporté le nombre d'Israël. Vayten Hashem. Devar Israël, Be Israël, Dever Be Israël, mais à Boker ad et Moaed, Vayamot Minaham, Midan Vead Bercheva, Shivim Elef Ish. Donc, parce qu'il a compté le peuple, il y a eu 70 000 qui sont morts dans le peuple. Alors, la Maghefa, cette Maghefa-là, elle a été due pourquoi? Pourquoi c'est? Parce qu'ils ont compté le peuple. Rachid dit, au début de Parashat Kitissa, que le compte, quand on dénombre, on l'a dit dans Parashat Kitissa, on ne compte pas comme ça. On ne compte pas, on ne fait pas le recensement comme ça. On fait le recensement par le Mahasit HaShekel. Mais Nathanish Kofer Lacho. David, il n'a pas fait ça. Donc il a été frappé par la Aïnara. Il dit, les filles, Shiminyan, Cholet, Benana, Verdever, Baalien. Donc si on compte le peuple, alors on peut attirer le Dever, l'épidémie. Comme ça s'est produit à l'époque de David. Shivrim Elefish. Pourquoi 70 000? Afour Romes qui a magefa ba mipne aïnara. 70 000. Pourquoi? Parce que le mot aïn, ça vaut 70. La lettre aïn, elle a valeur 70. Donc 70 000, ils sont morts parce que le aïn, la lettre aïn, elle a la valeur de 70. Donc le secret de la Magueffa, c'est le Aïn. Donc c'est sûr qu'il ne fallait pas faire ce que David il a fait. Elisha Anavi et la femme de Obadia. Donc c'est un épisode, la femme de Obadia. Obadia, il était au service de Ahab et il a caché des Nevi'im dans les grottes. Donc il subvenait aux besoins des prophètes qui étaient cachés que la femme de Isabelle, elle voulait tuer. Donc il les a cachés. Comment il subvenait aux besoins? Il prenait de chez Ahab. Ahab, lui, il était chef de cabinet, disons, de Ahab. Celui qui gérait la maison du roi. Pensait qu'il était riche. Il lui dit, prête-moi. Et Ahab, un rachat, il prête avec intérêt. Donc il lui a prêté pour que Obadia il aille acheter pour nourrir les prophètes. Donc il a accumulé des dettes avec des intérêts astronomiques. Quand Obadia il est mort, il est venu le fils de Ahab, il est mort, et il est venu le fils de Ahab, il a dit, mon père, ton mari, il a des dettes. Je vais venir prendre, il faut payer. Il dit, j'ai rien, j'ai pas un sou. Il vient à la maison, il voit la maison vide. Il dit, mais comment je vais récupérer mon argent? Alors il a dit, je vais prendre tes enfants, et je vais les vendre esclaves dans Beth Avot Hazara. Donc à ce moment-là, la femme de Obadia, elle s'adresse à Elisha, elle dit, voilà que mon mari, il a fait du bien, et le créancier, il est venu réclamer son dû. Et j'ai pas, il prend mes enfants. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il lui a dit, j'ai rien. Il dit, je trouve que j'ai une petite fiole d'huile avec, qu'est-ce qu'il y a comme, il n'y a plus d'huile dedans, mais il y a un petit peu sur les parois. Alors il lui dit, le prophète, tu vas fermer la maison, tu vas remplir la maison de récipients, et tu fermes toute la maison. Oh, accumule, emprunte, achète, débrouille-toi autant de récipients qu'il est possible. Et tu vas fermer bien la maison et tu vas verser avec cette fiole où il n'y a presque rien. Tu vas verser. Et tant que la maison elle est fermée, que tu verses, et tant que tu as des récipients à remplir, ça se remplira. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Oubat, mais Sagar, t'as délai ba'adech ou ba'ad banaïr. Donc tu fermeras, tu rentreras à la maison, tu fermes la maison, tu montes à personne et tu verses. C'est-à-dire le Nes, il doit se passer dans la discrétion totale. Et tant qu'il y a des récipients, tu pourras remplir ces récipients avec cette huile-là. Donc dans cette histoire-là, on remarque qu'il lui a dit que tu fermes dans la discrétion. Le miracle, c'est ce que Rashi dit, mais ça garde à des lettres que vodanes sous la voie au Batsna. Le miracle, il doit se produire dans la discrétion. Sans ça, il ne peut pas y avoir de miracle. Donc il est nécessaire ici, c'est-à-dire le miracle ici, il se produit de manière relativement naturelle. Le Malbim rajoute, pourquoi il lui dit ferme la maison et que Kedeshelo Yahul Ain Arabanesh? Il dit parce que plus il y a un miracle, il va être puissant. Et plus les gens ils vont parler de ce miracle-là. Et le Aïnara, il pourra altérer le miracle. Il dit que la bracha ne réside que cela où l'œil ne peut pas regarder. Quelque chose qui est caché de l'œil. Dieu. Il ordonnera sa bénédiction, son abondance, sa prospérité, là où tu ne peux pas porter ton regard, de manière au-delà du regard. Ba'asa mecha, anum ilachon samouy, ça veut dire asa mecha, c'est caché, couvert, on ne peut pas le voir. Comme la chose se fait, elle est cachée, alors la bracha, elle réside. Pourquoi? Parce qu'on a vu que même dans le miracle, on peut contester le miracle. On peut être tellement qu'on est étonné du miracle et on va se dire pourquoi celui-là il a ça, etc. On peut altérer le miracle par un regard négatif de nuisance. Alors c'est ce qu'il a dit. Et on sait que de cette bracha-là, après que le miracle s'est produit, la femme d'Ovadia, elle a vendu son huile avec tellement de facilité, etc. Tout le monde réclamait l'huile, c'est l'huile du miracle. L'huile qui produisait toutes sortes de miracles. Elle n'a pas dit que c'était du miracle. Mais quand les gens ils consommaient cette huile-là, ils guérissaient, ça produisait des choses, et elle en a eu, jamais il finissait. C'était quelque chose, la bracha, elle était continuelle. Et ça, tout ça, ça se produit quand c'est Samoui Minahari. Elisha avec la Shunamite. Donc, il y a un autre épisode qui est marqué dans la Torah, au sujet d'Elisha, c'est la Shunamite. Que cette femme-là, elle a dit à son mari, le prophète, il vient chez nous, on va lui faire une chambre, un lit, une table, une lampe et une chaise. Et Gehazi, il dit à Elisha, il dit, cette femme, elle est vieille, je vais lui faire quelque chose. Il dit, voilà, fais-lui une bracha qu'elle ait un enfant. Donc, elle a un enfant. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Que quand l'enfant il a grandi, l'enfant il est mort. Elle a posé sur le lit du prophète. Et elle est partie chez le prophète. Et qu'est-ce qu'il dit quand elle lui raconte? Je t'ai rien demandé, tu m'as donné un enfant, maintenant il est mort. C'est pire que si tu m'avais rien donné. Alors il prend sa canne, il dit à Gehazi, tu vas aller la poser sur l'enfant et il va vivre. Voyons mal Gehazi, Hagor motnecha, Mishanti, prends ma canne. Et l'air, tu ne parles à personne, il ne faut pas parler. Alors il dit, tu poses là la mishanet sur la face de l'enfant et il va se lever. Yassi, mais ta mishanet, il a fait ça, il n'a pas marché. Pourquoi? Alors il est revenu chez le prophète. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Et l'enfant, il ne s'est pas réveillé. Alors Elisha, il est venu. Alors regardez ce qu'il y a marqué. Voyez-vous, Elisha Abaïta Venina Armet. Il est rentré Elisha lui-même dans la chambre. Il a vu l'enfant mort. Voyez-vous, il est rentré. Voyez, il a fermé la porte. Ça veut dire, Vite Palel Hachem. Il a fermé la porte et il a prié Dieu. Voyez, Faka. Alors il s'est mis sur lui, il lui a insufflé l'œil sur l'œil, le nez sur le nez, la bouche sur la bouche, sur l'enfant mort. Il a insufflé. A marqué après, l'enfant a ouvert les yeux. Donc il a noté que Gehazi, tout le chemin, quand il lui dit le prophète, va, tu parles à personne, lui il a commencé à dire, ah, est-ce que là, et la Gemara, il a commencé à dire, est-ce que la canne elle va ressusciter les morts, la canne elle va. Il a commencé à se moquer, à parler à haute voix. Et d'ailleurs, le Midrash il l'a même posé sur un chien. D'accord, le chien il s'est levé. Quand il a voulu faire ça sur l'enfant, ça n'a pas marché parce qu'il a parlé. Parce qu'il a proclamé. Donc le Sitracha, il a pris le miracle. Et quand le prophète, il agit dans la discrétion totale, de sorte que rien ne peut venir altérer le miracle. Et nous dire à Benou Bahia que sur les recommandations qu'il a fait Elisha Gehazi. Il ne fallait pas qu'il parle. Les recommandations qu'il donne, c'est de ne pas parler. Shelo, il galèche les hotos, qu'il ne dévoile pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est la mission qu'il a. Mais lo, ishlot, bo, benes, ainara. Que dans ce miracle-là, il n'y a pas de prise du ainara. Mais Gehazi, il n'a pas fait attention à tout ça. Il a parlé, etc. Il a raconté à tout celui qui rencontrait, il raconte. Il a raconté. C'est pour ça que quand Gehazi pose la canne sur l'enfant, l'enfant ne se réveille pas. Parce que le Sitra, il a pris, le Mi'aynara, mais on remarque que quand lui, il vient, Elisha, il vient, il a fermé. Donc le miracle, il ne se produit que par la discrétion. Ça ressemble exactement, et Elisha, c'est la deuxième fois qu'il agit de la sorte. Une première fois avec la femme de Ovadia, quand il dit ferme la porte. Et ici aussi, lui-même, il a fermé la porte. Fin de la quatrième partie du Aïnara. Baruch Adonai Eleolam, Amen ve Amen.